Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
chers téléspectateurs, chers amis, nous vous saluons chaleureusement pour la cinquième partie de cette série intitulée L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, qui se base sur le livre portant le même titre et dont nous lirons aujourd'hui à nouveau certains passages. Ce livre a vu le jour sur la base d'échanges avec Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque, dont le contenu a été enregistré et redonné autant que possible par écrit. Pour résumer en quelques mots, cette œuvre nous transmet avec les termes simples du vocabulaire de notre monde tridimensionnel une vision divine prophétique. Les émissions précédentes nous ont éclairé de manière succincte sur la structure et le fonctionnement du gigantesque processus universel de la création, de l'éther de lumière jusqu'à la constitution du noyau central de tous les êtres de la création et la formation de l'être parfait qu'est Dieu. Comme nous avons pu l'entendre, l'éther de lumière est l'énergie la plus élevée qui soit, qui ne tarit jamais et dans laquelle sont inclus le royaume de Dieu, toutes les formes de vie pure et tous les êtres divins. Les domaines ou cosmos de matière moins subtile ainsi que le cosmos matériel sont eux aussi entourés de l'éther de lumière. L'éther de lumière infini et intarissable est l'énergie de création de l'éternel. Dans la suite des explications, nous avons reçu des éclaircissements sur la formation du noyau central dans le berceau de la création de l'éternel, de même que sur la naissance spirituelle menant à la filiation divine. Il était aussi question de la force originelle au-dessus de tout et des quatre forces élémentaires, les forces originelles de l'infini, et que, comme un scientifique l'a expliqué, l'action de ces quatre forces élémentaires sont également visibles dans la matière. Dans la dernière émission, il était question des cinq composantes de l'être humain, ses sensations, sentiments, pensées, paroles et actes, qui bien souvent deviennent des substances de combat, qu'il dirige contre ses prochains, contre la nature et les animaux, et qui se retournent en fin de compte contre celui qui les aimait, c'est-à-dire celui qui a construit et émis ces énergies négatives. Aujourd'hui, nous allons à nouveau en apprendre davantage sur nous-mêmes, sur notre être véritable et éternel et sur la communication universelle. Nous continuons au chapitre suivant. L'être humain, le noyau central et l'être spirituel.
Zu verstehen, wie sich Mensch
pour comprendre la relation entre l'homme, le noyau central et l'être spirituel, commençons par observer l'être humain. Nous croyons connaître une personne qui nous est proche. Nous connaissons son nom et son apparence. Nous disons par exemple, c'est Martin. Mais connaissons-nous l'être humain, Martin ? En fait, nous ne le connaissons que par son nom. Son identité, c'est ce qui est enregistré dans son cerveau. Chers amis, qu'est-ce que cela signifie? Pour le comprendre, continuons notre lecture. Notre cerveau enregistre sous forme de succession d'images le contenu intégral de nos sensations, sentiments, pensées et paroles, mais aussi de nos actes. Avec le temps, notre cerveau transmet ces informations à nos cellules et à tout notre corps. Ce dernier est en communication constante avec notre cerveau qui communique avec toutes les cellules et fonctions de notre corps, avec tous les éléments qui le constituent. Il en résulte que les données enregistrées dans le cerveau sont en communication avec tous les éléments du corps. Notre cerveau ne transmet que ce que nous avons enregistré dans nos cellules cérébrales.
Und wie ist es mit dem Wesenskern? Et qu'en est-il du noyau central ? Exprimé avec les mots de notre monde tridimensionnel, le noyau central divin est l'existence pure comprimée, la source émettrice et réceptrice de l'être divin. Le noyau central et ainsi le corps spirituel sont éthers de lumière comprimés. Par l'intermédiaire du noyau central, les particules de l'être spirituel sont traversées par l'éther de lumière, la loi de l'infini. Les particules de l'âme et les cellules du corps physique sont traversées par l'éther de lumière, ceci en fonction de ce dont elles sont chargées. Dieu est omniprésent, même si le corps physique a une structure totalement différente. L'être humain est composé d'organes, d'os, de ligaments, de tendons, de muscles et de nerfs, de veines et de vaisseaux lymphatiques, etc., etc., de tous ces éléments qui, ensemble, composent notre corps. Le corps des êtres divins, par contre, est composé d'une structure de particules. Pour faire une analogie grossière, on pourrait comparer le corps des êtres divins aux écailles d'un poisson, par exemple. Cependant, les particules ne sont pas disposées les unes à côté des autres, mais les unes sur les autres et sont serties les unes dans les autres. Tout le corps de l'être spirituel est composé de cette structure particulière. Tous les atomes spirituels de l'éternité sont disposés dans cette fine structure écaillée et reçoivent l'énergie cosmique de l'unité universelle à travers le noyau central, le cœur primordial.
Der Alleinheit empfangen.
Ein wunderbares Bild.
La rose peut, elle aussi, nous en donner une merveilleuse image. En s'épanouissant, les pétales, repliés les uns sur les autres, libèrent le cœur de la rose. Les pétales sont-elles un éventail, telles des écailles, formant une structure intérieurement mobile. Le corps spirituel n'est donc pas composé de cellules, ni d'organes, d'os, de ligaments, de tendons ou de muscles. Il est de substance totalement éthérique et spirituelle, c'est-à-dire totalement fine. On pourrait dire qu'il est libéré de toute pesanteur et complètement mobile. Cependant, il n'est pas non plus possible de décrire véritablement l'état d'apesanteur. Nous essayons de le définir en disant, par exemple, c'est plus encore que léger. Cependant, les qualificatifs léger ou sans pesanteur se réfèrent encore à la notion de poids. Le corps spirituel, lui, n'a pas de pesanteur, pas de poids.
L'expérience est similaire lorsque nous essayons de saisir la réalité véritable du mot « éternité ». L'éternité est l'infini, l'éther de lumière, qui se dilate sans cesse et est constamment en mouvement, et l'éternel, l'esprit omniprésent, Dieu, se trouve en tout et en tous. Pouvons-nous exprimer l'éternité en utilisant le mot « temps » ? Cela n'est pas possible, car l'éternité ne connaît ni le temps ni l'espace. Tout comme nous ne pouvons pas décrire les éons et les cycles d'éons en utilisant des termes limités au temps et à l'espace. N'oublions pas que tout ce que nous entendons ou lisons ici concernant le royaume de Dieu ne représente même pas un souffle de l'éternité. En se densifiant de plus en plus, l'énergie dégradée, L'éther de lumière prit une structure spatiale et temporelle. C'est la raison pour laquelle l'homme se meut aujourd'hui dans l'espace et le temps, et c'est pourquoi sa vie est marquée par l'espace et le temps. Son corps a un poids, une pesanteur. Malgré cela, grâce au noyau central, qui se situe à proximité de l'hypophyse, l'homme reçoit l'énergie spirituelle dispensée par la force primordiale.
Poursuivons notre lecture et apprenons comment l'énergie spirituelle parvient dans le corps. À partir de la force primordiale, des énergies spirituelles s'écoulent à travers l'âme jusqu'au centre spirituel qui se trouve dans le corps physique et atteignent ensuite tous les éléments du corps. Dans le corps humain se trouvent 7 centres spirituels par l'intermédiaire desquels l'esprit s'écoule dans l'homme. Ces 7 centres de conscience correspondent aux qualités divines. Ils sont les centres distributeurs des forces éthériques. Chaque organe du corps physique est relié à l'un de ces centres de force et reçoit ainsi l'énergie vitale dont il a besoin.
Par contre, l'être spirituel, dont la structure est faite de particules, est ce qu'est le noyau central, c'est-à-dire la vie universelle, l'unité universelle. En comparaison, l'homme est ce qu'il a enregistré dans ses cellules cérébrales. Son cerveau est le transformateur relié à toutes les cellules, à tous les éléments du corps et à tout ce qu'il croit ressentir, sentir, penser, dire et faire.
Zu fühlen, zu empfinden, zu denken, zu reden und zu handeln.
Le cerveau humain émet ce que l'homme est, ce dont il est imprégné. Ces 5 composantes reflètent des éléments identiques ou similaires.
Les particules du corps divin, donc l'être spirituel, sont en unité avec le cœur primordial, le noyau central, Dieu, l'éternel dans le noyau central. Dieu, l'éternel, parle dans le noyau central et l'être spirituel est sa parole et est également le corps divin, un, avec Dieu Père, qui est également Mère. Toutes les formes de vie reçoivent sa parole universelle en fonction de leur niveau de conscience. L'homme, qui est capable de percevoir sa parole universelle, la reçoit lui aussi par l'intermédiaire du noyau central.
Pour certains, l'exemple du fonctionnement du téléphone mobile sera éventuellement une aide précieuse. Une comparaison, bien qu'un peu bancale, nous aidera peut-être à mieux comprendre la parole universelle. Pourquoi avons-nous un téléphone portable? On pourrait comparer le noyau central à un téléphone portable, bien que ce dernier en soit la représentation la plus basse qui soit. Le numéro du correspondant n'est autre qu'une fréquence qui sera choisie dans un réseau englobant toutes les fréquences potentielles existantes. En composant le numéro, celui qui appelle choisit la fréquence de son correspondant et entre ainsi en communication avec l'un des utilisateurs du réseau qui regroupe tous les propriétaires de téléphones portables. Pour rester dans notre image, si quelqu'un n'a pas le numéro, c'est-à-dire la fréquence qui lui permet de joindre le correspondant souhaité, il ne peut pas le joindre. Bien que l'autre utilisateur soit dans le même réseau de communication que lui, il ne peut pas communiquer avec lui, car il ne peut pas créer de liaison de communication avec lui. Appeler quelqu'un avec un téléphone portable, j'ai donc besoin du numéro de mon correspondant.
Das Handy nutzen zu können, brauche ich, der Anrufende, die Nummer des Adressaten.
L'être spirituel n'a pas besoin du numéro de portable de telle ou telle forme de vie ou tel être spirituel, car il porte tout en lui et est en communication avec tout ce qui est. Au sens figuré, en se référant à l'unité universelle qui parle, on pourrait dire que l'homme, lui, est comme un numéro. Si ce numéro ne se trouve pas dans le réseau de communication humain, on pourrait penser qu'il n'existe pas. Les capacités de perception de l'homme sont plus que limitées. Un animal, par exemple, peut émettre des images vers nous. Cependant, nous ne le comprenons pas parce que nous, les êtres humains, nous ne communiquons pas par l'intermédiaire du noyau central, mais uniquement avec nos sens physiques. Et lorsque nous voulons communiquer à distance avec nos prochains, nous utilisons alors le téléphone, l'Internet, les messages électroniques ou d'autres moyens semblables. Ce qui n'est possible que si nous avons le numéro ou l'adresse du correspondant souhaité. Le numéro homme, pour ainsi dire, doit pouvoir être sélectionné ou composé. Bien que nous pensions et parlions nous aussi en images, nous nous comprenons rarement les uns les autres et nous ne comprenons pratiquement pas non plus les animaux. Les modes de communication dans le monde végétal et dans le monde minéral sont, eux aussi, totalement inconnus de la plupart des gens. Et donc, à plus forte raison, la communication universelle qui relie tout. Cette comparaison, bien que bancale, montre à quel point la communication humaine est limitée et témoigne d'une grande pauvreté spirituelle. Les animaux, par contre, ne sont pas comme des numéros, mais la vie dans le réseau de communication éthérique de l'amour de Dieu et du prochain.
L'adversaire de Dieu connaît la source créatrice omniprésente, la communication universelle de l'existence universelle. C'est pourquoi il tente de transposer ce savoir à un niveau inférieur, dans le temporel, dans la matière. Cela se fait par exemple par les ondes radio, les ondes hertziennes, les ondes télévision, etc. Encore une fois, la communication universelle de l'existence universelle pure a été dégradée, transposée à un niveau inférieur à la matière. Malgré cela, cette sagesse universelle transformée, dégradée, qui fascine tant de personnes, peut nous aider à comprendre de façon approximative la communication telle qu'elle a réellement lieu dans l'infini. La communication universelle est la source de communication qui relie toutes les formes d'existence pure. Le téléphone portable que nous utilisons est une source de communication primitive qui se rapporte uniquement aux hommes. L'homme n'a même pas de communication avec sa planète, la Terre, et encore moins avec le cosmos universel d'où vient la vie.
Par contre, tous les êtres spirituels sont en communication avec chaque planète, chaque soleil, avec l'existence éternelle pure, parce qu'ils sont loi universelle éthérique comprimée et héritiers de l'infini. Au cours de leur développement spirituel qui a lieu sur les différents plans de développement et à travers la dualité, les enfants du royaume de Dieu ont accepté et accueilli complètement en eux le principe de communication universelle. Ainsi, tous les êtres divins sont à égalité les héritiers de l'infini. Malgré les différents degrés d'évolution, de maturité, des plantes et des animaux, tout est relié grâce à la communication universelle. Comme il a été déjà rapporté, les différentes espèces végétales et animales ont, selon leur degré d'évolution spirituelle, des degrés de conscience différents. La relation filiale au Dieu Père-Mère, spécifique à l'enfant spirituel, sommeille encore en eux. Les plantes, en tant que germes, sont encore affectées à ce qu'on appelle un collectif spirituel. Cependant, le germe, c'est-à-dire la vie de la plante en germination, en cours de formation, porte aussi déjà en lui des particules spirituelles divines correspondant à son niveau de conscience. Malgré les différents degrés de maturité, par la communication, tout est relié ensemble et avec l'un universel, l'esprit créateur qui est lumière et force dans toutes ses créatures.
Liebe Mitmenschen,
chers amis, à cause des charges de notre âme, il nous est souvent très difficile de comprendre que tout est relié grâce à la communication universelle. Pour les animaux, c'est tout à fait différent. Continuons notre lecture. Si nous pouvions demander à un animal, quel que soit son degré de maturité, « Es-tu chargé ?», il nous répondrait, si nous pouvions l'entendre, « Que comprends-tu par être chargé ?» Et si nous lui demandions « Es-tu en communication constante avec ton Créateur ?» L'animal répondrait, toujours si nous pouvions le comprendre, « Que veux-tu dire par « en communication »?»« Je suis dans sa loi. » L'animal ne comprendra pas ce que nous voulons dire si nous demandons « Qu'est-ce que la communication ?» Il constate tout simplement « Je suis ». Si nous demandions à une plante « Que signifie pour toi la communication ?» Elle dirait « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Et si nous insistions en disant « Tu es bien en communication avec ton Créateur ?» La plante répondrait « Mais je suis en lui. » Ce serait là la réponse des animaux, des plantes, et même des minéraux. Il dirait « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je suis dans le courant de la vie. Je vis à partir de Dieu et en Dieu, l'Éternel. Je suis dans son esprit. »
À propos de notre existence ici-bas, des textes anciens rapportent la parabole suivante. Je cite « Quelques personnes remplies de doutes vinrent à Jésus en disant « Tu nous as dit que notre vie et notre existence viennent de Dieu, mais nous n'avons jamais vu Dieu et ne connaissons aucun Dieu. Peux-tu nous le montrer, celui que tu nommes le Père et le Dieu unique? Nous ne savons pas s'il existe un Dieu. » Jésus leur répondit en disant « Écoutez cette parabole des poissons. Les poissons d'un fleuve parlaient entre eux et disaient « On nous raconte que notre vie et notre existence viennent de l'eau, mais nous n'avons jamais vu d'eau, nous ne savons pas ce que c'est. » Alors, plusieurs d'entre eux, plus avisés que les autres, parlèrent. Nous avons entendu que dans la mer vit un poisson sage et érudit qui connaît toutes choses. Allons le voir et prions-le de nous montrer l'eau. Ainsi, quelques-uns d'entre eux se mirent en chemin à la recherche du grand poisson sage et ils arrivèrent enfin dans la mer où le poisson vivait, et ils l'interrogèrent. Et après les avoir entendus, il leur dit « Ô poisson sot, qui ne réfléchissez pas, cependant, sage êtes-vous, le peu d'entre vous qui cherchez. Vous vivez et vous vous déplacez dans l'eau, où vous avez votre existence. » Vous êtes venu de l'eau et vous retournerez à l'eau. Vous vivez dans l'eau, mais vous ne le savez pas. De la même manière, vous vivez en Dieu, et pourtant, vous me priez. Montre-nous Dieu. Dieu est en tout, et tout est en Dieu.
Tous les êtres purs, issus de Dieu, évoluent dans l'océan universel, l'éther de lumière, c'est-à-dire dans l'existence universelle pure. La majeure partie de l'humanité n'a pratiquement pas de relation à l'océan universel, parce qu'elle s'est en quelque sorte elle-même rejetée de l'océan et a échoué sur le rivage. Beaucoup de personnes sont maintenant des chercheurs de coquillages qu'elles collent à leurs oreilles pour essayer d'entendre qui elles sont ou ce qu'elles sont. On est sans cesse amené à réfléchir aux conséquences causées par l'ego de l'homme, par son égocentrisme, son narcissisme. La majeure partie de l'humanité s'est détournée de l'unité absolue, de l'unité universelle qui parle, de la parole de l'esprit créateur universel. Le monde intérieur de l'être humain est programmé contre la loi de l'unité, contre l'amour pour Dieu et pour le prochain. Beaucoup de personnes sont dans ce comportement erroné qui correspond à une attitude de base égocentrique fondée sur le narcissisme. Je suis moi-même mon prochain.
Souvent, on avance l'excuse suivante. L'homme s'est éloigné de l'amour de Dieu et du prochain, et c'est comme ça. Mais qu'est-ce que l'amour en fait ? C'est souvent la question qui se pose dans ce cas. L'amour, c'est la loi de l'infini. C'est l'éther de lumière qui s'écoule en tout ce qui est. L'amour, c'est l'amour de Dieu et du prochain. C'est le Dieu Père-Mère, l'un universel et éternel, la force, la lumière et la loi dans toutes les créatures de Dieu et ainsi également dans l'homme, au plus profond de son âme. Si nous ne percevons pas l'un universel, nous pouvons conclure que nous nous sommes programmés selon la devise « Je suis moi-même mon prochain ». Par extension, cela signifie « Dieu, c'est moi » ou en tout cas « Je suis comme Dieu ». Beaucoup de personnes se comportent comme des dieux qui seraient au-dessus de Dieu, tout particulièrement dans les domaines de la science, de la théologie, etc. Par cette composante humaine explosive, dont le leitmotiv est « Je suis moi-même mon prochain », par cet amour égocentrique, narcissique, nous nous plaçons au-dessus de la vérité qu'est Dieu. Que signifie se placer au-dessus de Dieu? En fin de compte, c'est la chute. La pensée de la chute dit « Je ne crois pas en Dieu » ou « Je m'en suis détourné parce que je veux être plus grand que lui ». Quelles conséquences entraîne le fait de se détourner de Dieu, la vie véritable, la maladie, la détresse, l'affaiblissement, la solitude, et bien d'autres maux encore, et finalement, la mort de notre corps physique précédée de tremblements d'effroi.
Oftmals ein schreckliches Gezeter bis zum Hinscheiden unseres physischen Leibes.
En réalité, seule la forme d'existence matérielle meurt, le corps physique, mais pas notre âme, notre existence véritable, le noyau central. En fait, on ne peut pas dire non plus que le corps meurt. Il appartient à la terre, et y retourne pour y être transformé.
Liebe Mitmenschen, mit der heutigen Lesung aus dem Buch.
Chers amis, grâce à la lecture de cette œuvre, l'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, nous venons d'apprendre énormément de choses. Si nous le voulons, nous pouvons aussi y réfléchir en nous demandant ce que cela signifie pour notre vie. Dans notre prochaine émission, nous pourrons en apprendre plus à ce sujet. Si vous le souhaitez, retrouvez-nous sur cette antenne. Il sera question du thème suivant, le souffle de Dieu est la loi universelle, l'éther de lumière. Chers amis, nous vous souhaitons le meilleur, au revoir et à bientôt.